À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Marche en ma présence », animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
Voici que notre portrait de la personne spirituelle se précise. Nous pouvons aujourd'hui tracer des traits déterminants de son visage en abordant le thème de la décision, de la réponse aux appels de Dieu. Marcher en présence de Dieu ne consiste pas seulement à se placer dans la lumière, à vivre dans l'action de grâce, mais à entrer en dialogue avec celui qui nous accompagne. À travers une expérience de fréquentation et d'apprivoisement, arriver à le connaître, lui, et à saisir ce qu'il désire pour nous. Mais c'est notre réponse qui apparaît ici décisive et qui permet à l'action de Dieu de rejoindre notre liberté, de pénétrer toute notre vie. Les appels de Dieu dans notre vie exigent une réponse. Le Seigneur sollicite un accueil de notre part. Il ne fait rien sans solliciter notre consentement libre. Le Seigneur respecte notre liberté. La porte de notre cœur, pour ainsi dire, ne s'ouvre que de l'intérieur. Un vieux trappiste disait « Le bon Dieu fait tout, mais il dépend de moi qu'il fasse tout. » Il ne suffit pas de discerner, de voir clair, d'entendre les appels. Il faut consentir, répondre, dire oui. Et c'est là une autre activité plus profonde de l'homme, une activité différente du discernement, celle de la décision, de l'engagement. Répondre aux appels de Dieu signifie engager notre liberté, devenir responsable. Et cela, personne ne peut le faire à notre place. On peut dire que c'est le meilleur de l'expérience spirituelle. Tout l'enjeu de notre condition humaine se trouve dans nos décisions. C'est donc dire que nous atteignons ici le point tournant, le point de passage où la grâce rejoint notre liberté, le point de jonction entre l'action de Dieu et notre action, entre notre contemplation et notre engagement, ou si vous voulez, le point d'ancrage de l'Évangile dans notre vie. Je m'inspire, pour les réflexions que je voudrais vous proposer, je m'inspire largement des textes du père Pierre Van Brimen et de François Varion. Face aux appels, nous pouvons ou bien dire non, refuser de répondre, ou bien dire oui et non en même temps, hésiter, tergiverser. Ou encore, nous pouvons dire un oui franc et total. Voilà les trois aspects de la réponse qu'il nous faut considérer. Il y a un choix à faire. Une décision à prendre. C'est comme si nous nous trouvions entre Dieu et diable, entre l'absurde et le mystère. Nous sommes envoyés dans le monde, écrit Henri Nouwen, pour un temps très court, pour dire, à travers les joies et les souffrances de notre temps humain, le grand oui à l'amour qui nous a été donné, et se faisant retourner à l'unique qui nous a envoyés avec ce oui gravé dans nos cœurs. Il faut donc choisir, aborder au rivage du choix, dire oui à Dieu, dire oui à la vie, dire oui au mystère, et dire non au diable, à la mort et à l'absurde. Nous pouvons donc, en premier lieu, réellement dire non à Dieu qui nous interpelle. Pouvons-nous refuser à correspondre aux signes qu'il nous fait? Nous pouvons nous refuser à l'amour de Dieu qui nous sollicite à travers ses signes et ses appels. Nous avons la liberté de dire non. Et en cela, Dieu respecte notre liberté, qui fait partie essentielle de l'amour véritable. Paul Evdokimov disait ceci: c'est parce que l'homme peut dire non que son oui peut atteindre une pleine résonance et que son fiat ne se trouve pas seulement en accord, mais au même niveau vertigineux de libre création que le fiat de Dieu. Nous verrons que notre capacité de nous déterminer nous-mêmes, nous décider, notre capacité, c'est ce qui nous rend le plus semblable à Dieu et au Dieu créateur. Ce qu'on appelle le péché, c'est de dire non, fondamentalement, se fermer, se refuser à cet amour qui s'offre à nous. C'est comme dire « Non, je n'en ai pas besoin, je me suffis à moi-même. Je veux être l'auteur de ma propre vie, de mon propre bonheur. » C'est évidemment là une impossibilité s'il est vrai que tout est grâce, que nous avons tout à recevoir. Nous ne sommes pas l'auteur de notre propre vie. Tant et aussi longtemps que nous avons cette prétention à nous suffire, nous n'acceptons pas l'amour, nous nous trouvons bloqués, fermés. Nous ne laissons pas Dieu être Dieu dans notre vie. Et cela est désastreux. Terriblement désastreux. Si vous me permettez cet exemple, c'est comme si un grille-pain se disait à un moment donné « Je veux être débranché. » Je me refuse d'être branché sur la prise de courant. Le péché est vraiment désastreux. Les conséquences de ce refus de laisser Dieu être Dieu dans notre vie, c'est ce qui déséquilibre toute notre vie. Il y aurait un beau tableau à peindre ici, un tableau légèrement noir. Tableau de la jalousie, de l'agressivité, de la cupidité, des compensations de toutes sortes. Quelqu'un qui se refuse d'accueillir la vie qu'il ne se donne pas, mais qu'il reçoit, se ferme à la réalité. Le monde extérieur devient pour lui une menace, ce qui le pousse à avoir une image négative de lui-même, de vivre beaucoup d'insécurité. Quand on se coupe de Dieu, on cherche alors à attirer l'attention des autres, à nous faire valoir, à nous imposer, à entrer en compétition, à nous défendre, ne trouvant pas en nous-mêmes des sources de vie, nous cherchons nos appuis ailleurs, dans des substituts, des alibis. Alors, il nous faut des divertissements, des dérivatifs. Nous nous sentons pris à l'intérieur, fragiles. Et tout cela parce que nous nous coupons de la source, parce que nous ne laissons pas aimer. Nous tentons de nous construire nous-mêmes, de nous suffire. Une véritable autodestruction quand c'est mené à bout. En nous coupant de l'amour, en ne demeurant pas dans l'amour de Dieu, nous nous coupons de nous-mêmes et des autres, nous nous faisons mal, et nous faisons mal aux autres en brouillant toutes nos relations. Mais le problème, sans doute, d'une manière réaliste, c'est pas que nous disions non aux appels de Dieu, je pense. Il n'y a personne d'intelligent qui voudrait se couper de la source de la vie, consciemment. Le problème, sans doute, c'est que nous ne parvenons pas à dire un oui franc, un oui total. Nous nous situons entre les deux, incapables de dire ni oui ni non. Martin Buber disait que si le diable existe, c'est pas quelqu'un qui déciderait contre Dieu, mais c'est quelqu'un qui, de toute éternité, serait incapable de se décider. Certes, plusieurs choses, plusieurs facteurs peuvent nous empêcher de nous décider, de prendre parti, de laisser Dieu être Dieu dans notre vie. Je ne fais que les énumérer, vous les connaissez probablement. Il y a tout d'abord la peur, la frayeur qui parvient du fait que nous nous projetons dans l'avenir. Si je m'offre à Dieu, tout d'un coup, il peut m'appeler à ceci ou à cela. On se fait de grandes imaginations, des choses qui jamais ne se produiront. Mark Twain disait « J'ai beaucoup souffert dans ma vie et je m'aperçois que 90% de la souffrance n'a pas existé. » Ce qu'on appelle des peurs anticipatrices. Des peurs qui inhibent et empêchent la décision. Les personnes intelligentes, elles, vont rationaliser les choses. Vont toujours vouloir de plus en plus d'indices ou de signes avant de se décider. Faisant toujours remettre à plus tard l'engagement qu'ils n'arrivent jamais à prendre. On a appelé ça le syndrome de la salle d'attente. On n'arrive jamais à passer à la décision. Un autre facteur, ce sont les passions qui nous attirent ailleurs que là où se trouve le Seigneur. Les convoitises, les cupidités, les élans instinctuels qui jouent en nous. Et qui font que nous n'avons pas intérêt à nous décider. Nous ne voulons pas quitter des biens que nous chérissons. Nous tentons de faire des compromis, n'arrivant pas à nous fixer ou sur le oui ou sur le non. Chesterton avait trouvé en anglais un mot pour désigner cette sorte d'indécision. Il parlait du yo. Le « yo » qui est le « yes » et le « no » en même temps. On ne sait pas trop si c'est « oui » ou si c'est « non ». Tergiverser, utiliser des compromis. Vous connaissez la personne la plus indécise. Son nom s'appelle « ni non, oui mais ».« Ni non, oui mais ». Il y a aussi le « surmoi », la pression sociale qui peut nous empêcher de nous décider. Tout le monde le fait le don. Alors, quand on va à rebrousse-poil du courant social, c'est plus dur. Les qu'en dira-t-on? Le jugement des autres sur soi étant très fort, ça nous empêche de prendre nos propres décisions. Évidemment, il y a aussi des handicaps psychologiques, de l'immaturité, des maladies proprement dites qui empêchent la décision, comme chez les velléitaires ou les aboulés, les personnes qui n'ont pas de volonté ou les scrupuleux, les personnes scrupuleuses, les personnes pathologiquement angoissées. La peur, la passion, les rationalisations, le surmoi, les drogues, les handicaps psychologiques, tous ces facteurs restreignent à coup sûr, quand ils ne l'abolissent pas tout à fait, tout simplement, nos possibilités de nous décider de répondre aux appels de Dieu. Il faut comprendre également que toute décision est risquée. Étymologiquement, décider signifie couper. Couper les amarres, prendre sur soi, à sa charge, ses responsabilités. Décider implique des changements. Prendre le risque d'entrer dans le jeu de l'amour. Cela nous sort de nous-mêmes. Nous ne savons pas où cela va nous mener. C'est engageant, ça déloge, ça dépayse. Ça nous lance en avant. Nous sommes alors introduits dans ce qu'on peut appeler une sorte d'équilibre dynamique, à toujours quitter et à toujours retrouver. Il faut donc renverser les perspectives, se convertir vers l'autre, abandonner l'autosuffisance et en faisant confiance en l'avenir, être toujours prêt à partir comme Abraham ou comme Marie dans l'obéissance de la foi, en marchant en présence de Dieu. Refuser ce risque, c'est refuser ce qui fait notre vraie jeunesse, qui n'a rien à voir avec l'âge ou avec l'immunité corporelle, mais qui réside dans la capacité de toujours se dépasser et de se rénover. Notre véritable jeunesse, de fait, elle est devant nous et non pas en arrière. Nous sommes promis à une nouvelle naissance. Refuser de dire oui aux appels de Dieu, de répondre à son amour, c'est se condamner à une vie rabougrie, à des durcissements, des névroses, des peurs, de l'embourgeoisement. On se blesse à résister à l'amour. Les tergiversations, les refus mutilent notre personnalité, bloquent notre croissance, enlèvent notre joie et réduisent notre sens de la vie. Pour ne pas parler de nos relations qui sont toutes brouillées. Nous sommes appelés à dire un oui franc et total au Seigneur. Les oui vagues, informes, flous, flottants, partagés font des personnes divisées, assises entre deux chaises, tendues, inconfortables. Des êtres tièdes, ni chauds ni froids, dont parle l'Apocalypse. Des êtres ballottés par les événements et par les autres, qui ne savent pas où se trouvent leur cœur et leur trésor. Invitation donc à dire oui à l'amour, à répondre franchement, totalement aux appels de Dieu dans notre vie. Il faut aborder au rivage du choix, choisir entre oui et non, se brancher, c'est-à-dire prendre parti, assumer le combat que notre engagement implique. Notre oui représente notre réponse d'amour, notre don et notre offrande au Seigneur. Il est la forme la plus haute de l'adoration, la reconnaissance effective que Dieu est Dieu pour nous, l'acceptation réelle de son action créatrice dans notre vie. Notre oui et décision de collaborer avec Dieu qui est toujours en travail dans notre monde et dans notre vie. Bien sûr, pour arriver à prononcer notre oui, nous devons compter sur le temps. Et il ne faudrait pas que la perspective de grosses décisions nous empêche de dire nos petits oui quotidiens. Aide-moi, Seigneur, à dire oui. Il y a une très belle prière de Michel Coist. Il est nécessaire de nous maintenir en état d'éveil et d'attention et de répéter notre oui, de l'expliciter le plus possible chaque jour, au ras du quotidien, dans le concret de notre vie, face aux appels nouveaux que nous percevons pour qu'ils deviennent clairs, nets, francs et totaux. Toujours davantage. Il s'agit de bien tirer les joints de nos décisions pour qu'elles soient comblantes humainement et spirituellement. Répéter et maintenir nos décisions, sachant, comme le dit John Henry Newman, que 10 000 difficultés ne font pas un doute. Il faut, comme le chante Frida Bocara, il faut se marier tous les mois de mai, et peut-être bien tous les mois, puis toutes les semaines. C'est dire que notre oui est une réalité en croissance et qui est susceptible de gagner en force avec le temps et la fidélité. L'important, c'est que notre oui se fasse de plus en plus total, qu'il aille chercher toute notre vie. Il y a un proverbe chinois qui dit « Celui qui cherche Dieu et qui vend tout ce qu'il a, sauf le dernier sou, celui-là est bien fou, car c'est avec le dernier sou qu'on achète Dieu. » Le royaume de Dieu est semblable à un trésor qui était caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le recache et s'en va, ravi de joie, vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le champ qui contient le trésor incomparable, c'est ton cœur. Dieu y est enfoui. Mais il ne se livre que si dans ta joie tu lui donnes tout. Il faut nous arrêter et voir combien le Christ illustre très bien ce oui total, franc. Dans l'Écriture, il est dit que le Christ n'a pas été à la fois oui et non, mais qu'il n'a jamais été que oui. Sa confiance et sa foi en Dieu est totale, sans réserve. Sa vie entièrement abandonnée au Seigneur. Le Père Varillon a de très belles réflexions sur la valeur de nos décisions. Il dit que nous sommes ce que sont nos décisions. Nous devenons humains quand nous prenons des décisions libres. Quelqu'un qui n'a jamais décidé, c'est une personne informe. Nous valons ce que valent nos décisions, petites ou grandes. C'est par nos décisions que nous sommes authentiquement des hommes, des personnes humaines. Notre vie est un tissu de choix. Et ce sont ces choix qui font, qui fabriquent les personnes humaines. Le pape Jean-Paul II, dans une de ses très belles lettres, son encyclique sur la splendeur de la vérité, cite un père de l'Église qui dit ceci: « Tous les êtres soumis au devenir ne demeurent jamais identiques à eux-mêmes, mais ils passent continuellement d'un état à un autre, par un changement qui opère toujours en bien ou en mal. Or, être sujet au changement, c'est naître continuellement. Mais ici, la naissance ne vient pas d'une intervention étrangère, comme c'est le cas pour les êtres corporels. Elle est le résultat d'un choix libre. Et nous sommes ainsi, en un sens, nos propres parents. Nous créons nous-mêmes tels que nous voulons être et par notre volonté. Nous façonnons selon le modèle que nous choisissons. Par nos décisions libres, nous nous mettons littéralement au monde comme personnes humaines. Nous devenons nos propres parents. Et ces décisions totales, globales dans notre vie donnent tout le sens à notre vie. Nous n'avons pas beaucoup de grosses décisions à prendre, une, deux ou trois. Mais ces décisions sont centrales. Elles donnent la forme à notre visage. Et toute notre vie se réaménage autour de nos grosses décisions. Pensez aux décisions de choix de vie. Notre oui, alors, nous conduit à un débordement de vie et de joie dans toutes les directions. Ce n'est pas la réalité qui est changée, c'est nous-mêmes qui sommes changés. Nous-mêmes qui sommes changés face à la réalité. Nous voyons les choses fort différemment quand nous nous engageons. Nous sommes bien chez nous avec Dieu et avec les autres quand nous sommes conscients d'accueillir dans notre vie le Dieu qui nous appelle. Nous trouvons notre identité en disant oui au Seigneur, en même temps que nous consentons à nous-mêmes, nous nous accueillons tel que voulu de Dieu, et c'est très bon. Marie est totalement dans son fiat. Enlevez le oui de Marie. Marie n'existe plus, ni vue, ni connue. Ainsi en est-il de tous ceux et de toutes celles qui ont accueilli dans leur vie les appels de Dieu.
Vous venez d'entendre « Sous l'Olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.